des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M, c'est l'émission des livres plein les oreilles qui commence. Il sera question évidemment de beaucoup de livres dont nous allons vous partager la lecture avec les nombreux invités de cette émission du jour. Par exemple, aujourd'hui nous retrouvons Gérald Cousineau. Je vais aussi m'entretenir avec Karl Marchand au sujet de l'abbé Gravel. Je vais m'entretenir en seconde partie avec Reynald Robichaud qui est bénévole chez Vues et Voix. Et puis nous retrouverons aussi en seconde partie l'inénarrable Gérard Saint-Denis qui nous parlera aujourd'hui de contes de Noël. Il y a des invités, mais il y a aussi des rubriques, notamment la bande-annonce, mais pas la bande-annonce pour la semaine prochaine, mes amis, parce que la semaine prochaine, nous serons le 23 décembre, et le 23 décembre et le 30 décembre, il y aura des reprises qui seront présentées de l'émission des livres plein les oreilles. Donc, la prochaine émission originale, eh bien, ce sera pour 2016, ce sera pour le 6 janvier, et j'accueillerai à ce moment-là Monique Proulx. Il sera donc question du livre « Ce qu'il reste de moi ». J'accueillerai aussi Jacques Tremblay, bénévole, ici chez Vues et Voix, qui a lu pour vous Terminus radieux. Et puis sinon, que serait l'émission des livres plein les oreilles sans terminer par quelques titres en rafale parmi toutes les nouveautés du livre audio adapté. Mais d'abord, mon invité. Karl Marchand est un communicateur, il est journaliste à Radio-Canada. Bon, c'est quelqu'un qui a travaillé durant sa carrière, qui n'est pas si longue, parce que je ne sais pas encore exactement à quel âge il a, mais je lui entends une voix assez jeune. Et Karl Marchand, qui a également été journaliste pour la presse à Montréal, qui a notamment reçu le prix Judith Jasmin, dans le volet médias locaux et régionaux, c'est deux fois d'ailleurs en 2008 et en 2010. Karl, si je l'ai invité, Karl Marchand, c'est parce qu'il a eu la chance, le bonheur, ça il nous le dira, la joie et l'avantage, comme on disait dans le temps, de pouvoir côtoyer l'abbé Gravel, avec qui il a obtenu des entretiens durant les 8 ou 9 derniers mois de la vie de Raymond Gravel. Alors j'ai eu envie de l'inviter, mais comme il est à Sherbrooke, on fait ça par téléphone. Bonjour Karl Marchand.
Bonjour Clotilde.
Ça me fait très très plaisir que vous ayez accepté l'invitation. Je dois dire que lorsque j'ai tenu ce livre, lorsque je l'ai eu entre les mains, alors que maintenant il est disponible en version audio adaptée, et que pour moi, l'abbé Gravel a été un grand mystère. Et je me suis dit, oh, peut-être vais-je en apprendre un petit peu plus sur ce bonhomme. Mais la première chose quand même, avant qu'on ouvre ce livre, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à approcher l'abbé Gravel pour cette série d'entretiens?
En fait, ça a commencé quand j'étais journaliste à la presse. Souvent, quand on sort du bureau, c'est là qu'on se donne l'occasion de se barrer les pieds, si vous me passez l'expression. Puis on est allé le voir, c'est très drôle qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'on est allé le voir à l'époque parce que le projet de loi « Mourir dans la dignité » faisait l'objet de débats à l'Assemblée nationale. C'était avant l'adoption de la loi, donc à l'été 2013. Et donc, on est allé le voir pour avoir ces réactions-là parce que la nouvelle de sa maladie, de son cancer, avait été dévoilée, avait été rendue publique. Mm-hmm. Et donc, on est allé le voir pour obtenir ses réactions à ça, puis ses réflexions. Et cette journée-là, on n'avait pas fait de reportage, faute de place dans l'édition, mais l'idée d'aller à sa rencontre tout au long de son parcours s'est formée dès ce moment-là.
Okay.
Puis donc, une bonne partie à la presse, puis après ça, quand mon emploi à la presse s'est terminé, comme beaucoup d'autres personnes, j'ai vécu des perturbations économiques.
Ce qui fait J'imagine.
Que, quand ça s'est terminé, je suis allé le voir pour dire, écoutez, je travaille plus à la presse, mais si vous voulez, je vais continuer à venir vous voir, donc à partir de juin 2014, et jusqu'à peu de temps avant son décès. Là.
Parce que c'est pas facile d'accepter ça. C'est tout un... On sait que malheureusement, surtout dans son cas, on lui avait pas donné beaucoup de chance. On lui disait que ça allait durer 6 mois. Ouais. Alors, je pense qu'il est allé jusqu'à 8, mais...
Presque un an, parce que, il est décédé le 11 août 2014. Il avait eu le diagnostic un peu dans ces eaux-là un an auparavant. Mmh. Donc, il a pratiquement doublé les prévisions que les médecins lui donnaient au début.
J'ai besoin que le monde m'aime. Hein? Ça commence comme ça. Pourquoi?
Bien, la genèse de tout ça, je pourrais pas vous dire. Par contre, je sais qu'il avait un grand besoin d'aider les gens, de faire une différence. Je pense que peu importe ce besoin d'amour-là, peu importe dans quel domaine on est, on peut pas nécessairement tout le temps trouver une réponse à ça dans le travail.
Ça, c'est vrai.
Puis, évidemment, M. Gravel en parlait, il y avait des moments plutôt ingrats dans sa pratique. Par exemple, quand je pense que ça faisait 25 ans ou quelque chose comme ça qu'il avait été prêtre, ben il avait reçu un chèque de son évêché de 25$.
Ah oui, oui, oui.
C'est ça qu'il disait, bon, ben là, écoutez, je vais vous le laisser, vous en avez plus besoin que moi. Mais donc, je pense pas qu'il pouvait totalement aller chercher ça, mais c'était un orateur, un tribun incroyable.
Oui, incroyable.
Et je pense que le rituel de la messe, le moment de s'adresser aux gens, je pense que ça devait être un moment très riche pour lui et très agréable. Je pense que c'est ça. Il avait besoin du contact avec les autres. Il avait besoin d'aider les gens. Puis,
D'ailleurs, même lorsque la mort rôdait déjà au-dessus de sa propre tête, du moins c'est ce que vous écrivez en page 13, il avait reçu plusieurs demandes de funérailles pour célébrer des funérailles et il a toujours accepté.
Ben, pas tout le temps.
Pas tout le temps.
C'est ça, il y a eu des moments où il était. Parce que, bon, j'en fais pas. J'y vais pas en détail dans le livre, mais. Il avait une grande difficulté à dire non quand on lui demandait, en effet. Puis même quand il était malade, c'est ça. Puis c'est cette journée-là, je me rappelle, je vais toujours m'en rappeler, la journée où il a dit, ben, j'ai besoin que le monde m'aime, c'est ça. C'est que il avait célébré une messe à Mascouche le matin.
Oui.
Après ça, il y avait eu un...
Chez les pompiers.
Là,
hein?
Puis ce qui fait qu'il y avait une journée très chargée. Moi, j'avais été le voir dans l'après-midi, le dimanche. Puis donc, il célébrait des funérailles le soir, quelque chose comme ça. Puis le lendemain, il recommençait des traitements de chimio. Puis malgré tout ça, il n'avait pas été capable de dire non pour célébrer des funérailles. Il n'avait pas été en mesure de dire non parce que c'était pour rendre service, parce que c'était pour être utile. Ce qui fait que, je pense qu'il y avait c'était un homme d'extrême, M. Gravel.
Oui.
Je pense que c'était quelqu'un d'émotion forte, puis il avait besoin de se sentir utile.
Mais il trouvait que les gens sont exigeants à l'égard des prêtres.
Oui.
Ça aussi, vous l'écrivez.
Notamment pour ça, c'est ça, quand il se faisait demander là, de célébrer des funérailles, pendant qu'il était malade, disait moi-même, je suis malade. Sinon, ça, je pense que c'était un petit regret. Il disait, c'est dommage que je ne continue pas à vivre parce que le fait d'être malade moi-même va m'aider à justement côtoyer les personnes malades. Souvent, on arrive au chevet d'une personne qui est malade, que ce soit là, une maladie grave ou non, là, mais on ne sait pas trop comment réagir alors que la seule présence suffit. On n'est pas obligé de parler. Souvent, on a l'impression qu'on parle pour se sécuriser soi-même.
Hein?
Ce qui fait qu'il avait appris là-dedans. Mais je pense que la maladie l'avait... Évidemment, lui a fait faire un voyage spirituel aussi. Puis beaucoup de réflexions. Puis il avait réussi à, je dirais, mettre des bémols sur cette capacité-là à ne pas dire non, à tout le temps être obligé d'aller vers les autres. Il avait compris aussi que la simple personne qu'on est peut suffire à être aimé. Puis ça, je pense que c'est une question qui s'était posée toute sa vie.
Ah oui, effectivement. Et puis, il y a, à un moment donné, une page fort intéressante sur le sacrifice. Où, lui, il dit que la conception du salut de l'âme qui passe par le sacrifice, la pénitence et la prière, hein, donc je cite les mots que je trouve dans votre livre, est très commune chez les catholiques plus âgés, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne.
Oui, bien lui, il n'était pas dans la théorie de la rétribution, comme on dit, ce qui fait que dans sa tête, on ne mérite pas le paradis par les épreuves qu'on vit. Puis on n'a surtout pas besoin de s'en infliger d'autres. La vie est assez difficile comme ça.
Mais comme le pape Jean-Paul II, moi, quand j'ai lu ça, je me suis écrit plein de points d'interrogation. Je cite, Jean-Paul II portait un cilice.
C'est ça, donc...
Une ceinture avec des clous.
C'est ça, une ceinture de clous, puis c'est très commun, je pense, dans l'Opus Dei, ce genre de choses-là. Mais donc, l'idée que ce soit une douleur physique ou une épreuve, là, l'idée, c'est que on n'a pas besoin de l'épreuve pour gagner son ciel. Suffit de mener une bonne vie, d'être charitable, puis aussi c'était quelque chose de très important pour M. Gravel. On ne peut pas vivre seul. On peut pas. On fait partie d'une communauté. C'est important de se préoccuper de la communauté qui nous entoure. Puis que c'est évidemment en conséquence de ça, la communauté devrait nous aider aussi, mais on fait partie de quelque chose de plus grand que le simple individu, on fait partie d'une grande famille. Ça aussi, c'était très important pour lui.
Parlant de vivre seul, il y avait cet ami à côté de lui. Ça, c'est tellement touchant. Vous lui consacrez tout un chapitre à la fin, alors que l'abbé Gravel est disparu. Bon, Guizem, hein, mais je ne pense pas que ce soit son vrai nom.
Non, ce n'est pas son vrai nom.
Voilà. Puis à un moment donné, d'ailleurs, vous vous posez des questions, parce que, bon, on sait que l'abbé Gravel, avant de prendre la soutane, avait eu quelques aventures homosexuelles. Oui. On sait qu'il a fait de la prostitution. Bon, ça, c'était écrit, c'était su.
C'était connu,
mais là, à un moment donné, vous vous dites, mais est-ce que par hasard, est-ce qu'il y aurait un couple? Est-ce qu'encore une fois, ce serait un autre affront qu'il ferait à l'Église catholique?
Ça ne veut pas dire qu'un couple qui a eu nécessairement une sexualité à travers tout ça, je pense que ça appartient à ces deux personnes-là.
Oui.
Mais je pense que c'est une autre preuve que dans la vie, on ne peut pas être tout seul.
On ne peut pas être tout seul, hein, exactement.
On trouve une manière de s'entourer, mais vivre totalement seul. En tout cas, je pense pas que c'était possible pour M. Gravel. Puis, c'est une personne qui était là, qui a pris soin de lui pendant la maladie. Et ce que je voulais montrer aussi à travers ce personnage-là, c'est que derrière chaque... Bon, M. Gravel, c'était quelqu'un qui était adoré, qui était aimé. Mais justement, dans ces moments-là, il y a eu besoin de l'aide de quelqu'un pour travailler. On n'est jamais seul et que derrière chaque grande personne, il y a d'autres gens aussi, des héros obscurs. Puis je pense que Guizem, c'en était un qui a pris soin de M. Gravel, qui l'a épaulé dans des temps difficiles. Puis comment la relation entre ces deux personnes-là, Guizem en parlait de M. Gravel avec beaucoup d'amour, vraiment. Oui. Donc, quelle était précisément leur relation? Je pense pas que ça m'appartient.
Non,
de dire.
C'est
par
ça,
contre,
exactement.
Il y avait une relation qui était très riche, très forte là, puis qui était...
Et c'est le seul en qui il avait confiance. C'est ça, exactement. Puis c'est vraiment le seul en qui il avait confiance. C'est vraiment... en tout cas, ce sont des belles pages. Je trouve que c'est pour ça que je voulais les souligner. Et justement, par rapport à ça, en page 56, à un moment donné, vous demandez à l'abbé Gravel si son célibat imposé lui pèse.
Oui.
Avant d'enfiler la soutane à 33 ans, il était déjà un célibataire convaincu. Il vous a dit « Ça n'enlève pas le désir, mais je n'ai jamais vraiment souffert. J'ai trouvé plus difficile d'arrêter la drogue et la cigarette. » Oui. Ah, la cigarette!
Hein? Oui, la cigarette, il en parlait. Puis jusqu'à la toute fin, hein, il y avait encore, j'en parle dans le livre, il y avait encore le briquet dans ses poches. Puis il s'imaginait, je pense, au paradis en train de fumer une cigarette. Là.
Ah oui! Hein?
Il s'était bien dit d'ailleurs que s'il se savait condamné à un point, qu'il refumerait. Je pense qu'il n'a pas eu l'occasion. Là. Il était trop malade à ce moment-là. Là. Puis il était hospitalisé. Mais il avait commencé à fumer à 13 ans. Là, on voit que c'était un des grands amours de sa vie, la cigarette. Là. Quand il en parlait, c'était comme s'il y avait une forme de méditation là, puis de contemplation à travers tout ça. Mais je ne sais pas s'il me disait vrai quand il m'affirmait que c'était pas dur pour lui. Je pense que ça l'a peut-être été à un certain point de sa vie. Il n'aurait pas pu, M. Gravel, avouer, par exemple, vivre en couple. Il n'aurait pas, parce que ça aurait été pour lui la fin dans l'Église. Et ça, c'était plus important que tout.
Oui,
il y a eu un documentaire qui a été fait sur lui, là, qui a été diffusé à Télé-Québec il y a quelques mois. Puis, il y a, par exemple, une fois où M. Gravel a avoué publiquement qu'il était homosexuel, qu'il était dans un gala du gris. Il choisissait ses moments-là.
Oui, c'est
Mais
ça.
Sur les éléments qui auraient pu compromettre sa place dans l'Église, il s'est toujours gardé une gêne là-dessus, puis il n'en a jamais parlé publiquement, sauf à de très rares occasions, quand il savait justement que ça ne pourrait pas se rendre jusqu'à Rome, probablement.
L'abbé Gravel, vous le dites souvent et on le sait, on le devine, on le sent, a été un très, très grand humaniste. Et la question que je me pose, c'est mais alors pourquoi avoir embrassé la religion catholique? Il aurait très bien pu être l'humaniste qu'il était sans devenir prêtre.
Oui, mais il a toujours... Ça repart de son enfance, il a toujours voulu être prêtre. Il jouait à la messe quand il était petit. Pourquoi? Il a toujours voulu être prêtre, vraiment, vraiment, vraiment.
Mm-hmm.
Même dans ces périodes-là, en fin d'adolescence, début d'âge adulte, où c'était la révolution tranquille, l'Église était moins bien vue. Il y a eu des moments où il s'était éloigné de ce rêve-là, mais c'était toujours resté dans sa tête. Donc, pourquoi être prêtre? Ben, à un moment donné, c'est ça. C'est comme le petit gars qui veut devenir pompier quand il est jeune, ce genre de choses-là, j'imagine. Mais il avait toujours, puis en même temps, son point, c'était de dire, ben, je peux bien plus faire changer l'Église de l'intérieur que de l'extérieur. Puis au-delà d'être dans l'Église, je pense qu'il avait une foi aussi qui était très riche, très forte. Puis c'était une manière pour lui d'exprimer, de vivre sa foi, puis aussi d'être au service des gens, parce que comme prêtre, ben, il était aumônier de plusieurs pompiers, plusieurs policiers. Donc, il a accompagné beaucoup de gens dans des épreuves difficiles aussi. J'imagine qu'il aurait pu être psychologue s'il était né plus tard, là. Je pense que c'est ce genre de. Mais il voulait. Je pense qu'il voulait accompagner les gens d'une manière spirituelle.
Et le pardon, à un moment donné, hein, vous en arrivez au pardon. Hein, je ne sais plus comment c'était écrit, mais et il avait, je me souviens plus de la phrase, mais il dit, on a le droit, on peut pardonner à des gens qui nous ont fait très mal, mais on peut leur dire aussi tout de suite après, regarde, par contre, je pense qu'il vaut mieux que nos voix se séparent. Ça, c'était aussi un des traits de sa personnalité. Hein.
Oui, puis moi, j'étais certain, c'est ça que quand on dit tendre l'autre joue dans la Bible, là, c'était de se préparer à recevoir une autre claque sans rien dire. Mais c'est pas ça du tout. Ce que ça veut dire, c'est ne te venge pas.
Ah, c'est ça.
Parce que c'est l'interprétation qui en faisait. Puis il semble-t-il que les textes, c'est ça que ça veut dire. Prendre le temps, ça veut pas dire pardonner. C'est ça qu'on va inviter la personne à venir souper chez soi. Là. C'est juste de dire, je te pardonne pour le geste. Mais c'est aussi d'avoir la sagesse de s'éloigner d'une personne pour éviter probablement qu'on soit blessé à nouveau, j'imagine. Mais c'est ça, le pardonner, ça veut pas dire redonner une place à quelqu'un qui nous a fait du mal nécessairement. Là.
J'ai trouvé très triste, et on va finir là-dessus parce qu'il ne nous reste que très peu de temps. J'ai trouvé très triste que vous ne soyez pas là et qu'on ne vous ait pas permis de le voir. Vous avez dû trouver ça dur aussi. Et non?
Ben, en même temps, je le comprends parce que c'était pas, malgré la proximité qu'on a eue avec M. Gravel, le contact, j'ai jamais osé affirmer que c'était devenu un ami. Je pense que c'est, il y a une forme de respect là-dedans aussi. Il avait ses proches, puis c'était pas, je pense que j'aurais aimé ça le saluer une dernière fois. Ça s'est pas arrivé. En même temps, c'est ça, je faisais pas partie de sa famille, puis de son entourage immédiat. Donc, je pense que c'était peut-être ça qui était mieux pour ses proches aussi à ce moment-là. Donc, oui, c'est certain que c'est triste. Puis à ses funérailles, c'était un moment aussi
Sûrement.
Assez triste. Là. Mais somme toute, c'était pas une décision qui me revenait. Puis j'accepte totalement comment ça s'est produit. Là.
Et si vous deviez retenir une image de l'abbé Gravel, ce serait laquelle, Karl Marchand?
Chaque personne a des... Il disait ça, M. Gravel, chaque personne a des croyances et des convictions qui méritent d'être respectées. Ce qui veut dire qu'on n'a pas à juger les autres sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils désirent, puis sur ce qu'ils affirment. On a chacun des manières de vivre et on n'a pas à imposer des manières de vivre à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes. Donc, le respect de la personne, puis que c'est quelque chose de fondamental. Puis ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup marqué de toute cette expérience-là.
Merci beaucoup, Karl Marchand. Je voudrais rappeler, donner le titre de ce livre, Raymond Gravel, Le Dernier Combat. Et merci beaucoup d'être là aujourd'hui au téléphone pour nous en parler, pour les auditeurs de Canal M, des livres
plein les oreilles. C'était un plaisir.
Merci, Karl. Au revoir.
Merci.
Bonjour, cher Gérald.
Bonjour, chère Clotilde.
Comment ça va, mon ami?
Pas trop mal pour le 2 décembre.
Bon, oui, parce que c'est ça, comme je le précise souvent à nos auditeurs, je vais finir par trouver le mot, nous préenregistrons souvent l'émission, alors même si celle-ci est diffusée le 16, nous sommes effectivement aujourd'hui, quand nous l'enregistrons, le 2 décembre.
Mais je pense que je ne devais pas le dire.
Non, mais c'est pas grave.
Je me tape sur les doigts, là, tiens.
Non, mais vous savez quoi? Non, pas du tout, ne vous tapez pas sur les doigts, mon ami, parce que depuis les récents événements de Paris,
oui.
J'ai pris l'habitude maintenant de bien préciser quand nous préenregistrons, parce que voyez-vous, au moment où les attentats ont eu lieu le 13 novembre, il y avait un spécial Paris à l'émission fait par Gérard Saint-Denis. Oui. Alors du coup, évidemment, on n'aurait pas fait un spécial Paris sans parler des attentats nous avions été en direct. Alors comme ce n'était pas le cas, depuis j'ai décidé qu'on jouait franc jeu avec nos auditeurs et voilà.
Alors je suis pardonné.
Oh absolument, absous.
Merci.
Alors vous nous présentez quoi Gérald aujourd'hui?
Ben, aujourd'hui c'est un livre d'un jeune auteur québécois, c'est un professeur à l'UQAM, Samuel Archibald. Mm-hmm. Il a publié en 2011 un recueil, un recueil d'histoire qui s'appelle Arvida. Donc, un livre de 315 pages qu'on peut trouver au SQLA. Mm-hmm. Je dis histoire parce que, et je pourrais même dire conte, un recueil de contes. Okay. C'est pas vraiment des récits, c'est pas vraiment des nouvelles. Et je dirais conte parce que dans le mot conte, pour moi, il y a le mot exagéré. Et j'adore l'exagération, vous le savez. Et là-dedans, il y en a beaucoup. Mais ce que j'aime dans les contes, c'est que c'est difficile de faire la part entre ce qui est vrai, ce qui relève de la réalité et ce qui est inventé. Et j'adore aussi les menteries. Alors là, il y en a plein. Ah, oh, puis il y a des personnages. Il y a des personnages qui sont à la fois... enfin, il y en a qui sont sérieux, plus graves, mais il y en a d'autres qui sont complètement loufoques. Je pense à cette famille dans l'histoire qui s'appelle Les Derniers-Nés. Vous avez là des garçons dont on dit... Ben, ils sont pas assez malins pour allumer un feu et pas assez fins pour en éteindre. Alors, ce genre de personnage, j'adore ça. Ou bien cette dame qui est en train de faire une recette appelle son mari au bureau pour lui acheter du sel facultatif parce qu'elle a vu le mot facultatif entre guillemets sur la recette, entre parenthèses. On dit c'est pas vrai. Enfin, donc ça se passe à Arvida. Vous savez qu'Arvida, vous savez, peut-être que je vais vous l'apprendre, et d'ailleurs moi je l'ai appris, c'était fondé par un milliardaire américain, un philanthrope, qui s'appelait Arthur Vining Davis.
Oui, j'ignorerais complètement.
Ah ben voilà, moi je suis content, ne serait-ce que pour ça j'ai appris quelque chose.
Ah, alors, c'est pour ça, ce monsieur, Arvida.
Voilà, le monsieur a donné son nom, enfin les premières syllabes de ces trois mots-là ont donné Arvida, donc une ville qu'on a bâtie littéralement en 1925, en 135 jours, et c'est là où Samuel Archibald est né en 1978. Alors, il part de ça, il part de ce terreau-là pour écrire donc des contes ou des histoires que lui ont inspiré son père, les amis de son père, qui étaient des conteurs, des menteurs, comme ils s'en étaient plus. Et tout ça nous donne des contes souvent délicieux. Je pense entre autres au conte où il raconte un match de hockey entre les gens d'Arvida et les anciens Canadiens. Mais c'est d'un burlesque absolument délicieux. On ne sait pas vrai. Et évidemment, encore une fois, il s'est inspiré de sources réelles, mais il a mis beaucoup de fantaisie là-dessus, pour notre plus grand bonheur, d'ailleurs.
Mais il n'y a pas que de l'humour, hein? Il y a aussi...
Non, il y a des moments plus graves.
Plus grave,
c'est très curieux, parce qu'on passe, à un moment donné, il y a une histoire où quelqu'un est payé, pour 2 000 $ pour aller tuer quelqu'un, mais il est tellement malhabile, il va le soir avec une carabine, il n'y a même pas de silencieux, bien sûr, il va tirer sur la personne, il ne la blesse pas... Il la blesse, c'est tout. Et là, il est tellement découragé par ce qu'il vient de faire qu'il la prend dans ses bras, il l'amène à l'hôpital, il l'amène à l'urgence. Il amène sa victime à l'urgence. Bon, on pourrait bien sûr trouver ça épouvantable, mais on en rit quand même.
Oui, non, effectivement, je...
Même dans ce qui semble horrible, on finit par trouver quelque chose de très drôle. Et je dirais que c'est une constante dans le recueil, d'ailleurs.
Il y a un lecteur qui a écrit que certains passages font penser à des films d'horreur japonais.
Bon, vous savez que Archibald est un spécialiste du cinéma d'horreur. En même temps que de la science-fiction et du roman policier. Donc, ce n'est pas un hasard. Hein? Ce n'est pas un hasard si tout ça est mélangé.
OK.
Mais c'est absolument savoureux. Peu importe qu'on soit dans un recueil plus sérieux, enfin, un recueil, une histoire plus sérieuse, c'est très drôle. Et c'est raconté au vrai sens du mot. C'est un conteur. On pense à Fred Pellerin quand on lit ça. On pense également à Michel Tremblay, parce que les dialogues sont souvent savoureux.
Oui.
Alors, on pense au meilleur Michel Tremblay. Alors, tout ça pour un premier recueil, pour un premier livre. Moi, je dis bravo, hein, bravo.
Il y a un ami français, pourquoi je dis un ami, c'est quelqu'un que je connais absolument pas, mais c'est un lecteur français qui s'insurge un peu contre le fait que parfois, il y a certaines de ces histoires qui sont écrites en ce qu'il appelle lui en parfait français, le France.
Oui, 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 oui.
Et tout d'un coup, ne voilà-t-il pas qu'on nous parle de scène à la place de centimes? Et alors là, il dit non, alors vraiment, alors c'est une... Bon, il dit d'accord, la langue québécoise, il me semble entendre le français. Oui, c'est une vraie langue autonome, bon, qui a les mêmes droits, la même valeur pour tout le monde que le français parlé à Paris. Mais j'avoue être fâché quand je ne trouve pas de cohérence dans une façon d'écrire.
Ça ne peut pas déranger, parce qu'effectivement, on va passer de la langue qu'on appelle, bon, vernaculaire, la langue vraiment des habitants, ou la langue qu'on pensait être parlée par les gens à cette époque-là, et une langue plus neutre, c'est d'un narrateur, disons, plus neutre. Bon, moi, ça ne m'a pas dérangé.
Oui. Par
contre, quand on tombe dans la langue vernaculaire, là, c'est là où vraiment est notre bonheur, là, parce que les mots qu'on aime sont là, le style est là, c'est emporté, c'est lyrique. Non, moi, ça ne doit pas gêner, mais je peux concevoir qu'on puisse être surpris par ce qui peut paraître une incohérence. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. Hein.
Mais le même lecteur, par contre, je trouve qu'il a une formule qui est très, très belle. Il dit que ce Samuel Archibald, ce serait un peu un héritier d'Anne Hébert qui aurait beaucoup lu de Stephen King.
Oui, on a dit ça, effectivement. Donc, il y a tout un mélange. Hein.
Oui.
Il dit même qu'il va... Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dialogue avec Proust, mais il est comme Proust à sa façon, mais avec une autre Madeleine. Il a sa Madeleine à lui, disons.
Oui, c'est ça.
Il est ma croquette, comme il le dit quelque part.
Oui, attendez, je l'ai l'extrait. Ah. Alors, ils sont deux, c'est ça? Alors, l'un dit à l'autre, « Connais-tu Proust ?» L'autre répond, « Écrivain français, auteur de La recherche du temps perdu, six lettres. » Et l'autre, il dit, « Bon, voilà. » Eh bien, ce truc-là, à la recherche du temps perdu, c'est l'Everest. Quelque chose comme 4000 pages.
Oui.
Là-dedans, le narrateur goûte au début à une Madeleine et ça fait revenir à sa mémoire toute son enfance. Tu te rends compte?
Et toute son œuvre, oui.
Et toute son œuvre. Oui. Et là, il dit, le gars a sorti le monde entier d'un biscuit.
Oui.
Et là, l'autre qui dit, c'est pas vraiment un biscuit, une Madeleine. Mais l'autre, il dit, je sais, mais moi, j'ai rien qui se rapproche de ça. J'ai pas de Madeleine. Tout ce dont on avait faim quand on était des enfants, c'était de McDo.
Oui, et de Mae West. Dans la première histoire, on parle du père qui est très amateur de Mae West, et son père était un fameux raconteur d'histoire, donc Samuel a hérité de ce don, on peut dire. Mais c'est ça, il va comme exploiter sa Madeleine à lui pour tenter de faire renaître une sorte de folklore ou de redonner ses lettres de noblesse à une littérature populaire, mais dans le bon sens du terme.
Bon, et j'ai un autre petit extrait, si vous voulez.
Oui.
C'est un extrait sur l'Amérique. L'Amérique est une mauvaise idée qui a fait du chemin. C'est ce que j'ai toujours pensé, et ce n'est même pas une image. Mais en fait, j'aurais dû dire, l'Amérique est une mauvaise idée qui a fait beaucoup de chemin. Une idée qui a produit des routes interminables mènent nulle part, des routes coulées en asphalte ou tapées sur la terre, dessinées avec du gravier et du sable, et tu peux rouler dessus pendant des heures pour trouver à l'autre bout à peu près rien, un tas de bois, de tôles, de briques et un vieux bonhomme planté debout au travers du chemin qui te demande « Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu vas faire ici ?»
Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça?
Bon, Gérald, merci infiniment d'avoir une fois de plus participé à cette émission.
Ça m'a fait
plaisir. Et merci de nous avoir présenté Arvida de Samuel Archibald. Merci beaucoup, Gérald.
À la prochaine.
Oui, bonne journée. En 2016, maintenant.
Oui, on en est tout près.
Salut.
Salut.
Des livres pleins les oreilles, deuxième partie. Et pour ouvrir cette deuxième partie, j'ai la chance d'avoir avec moi ici en studio Reynald Robichaud. Bonjour Reynald.
Bonjour Clotilde, bonjour les auditeurs.
Bonjour à tout le monde, c'est bien de faire ça, il y en a plein qui l'oublient. Mais vous avez l'habitude, parce que quand vous lisez, vous y pensez.
J'ai toujours le lecteur, la lectrice en tête, toujours.
Ça fait combien de temps que vous faites ça, vous?
Dans ma neuvième année.
Neuvième année déjà?
Eh oui.
Ça en fait du bouquin
lu. Je grisonne à vue et voix.
Et aujourd'hui, vous nous faites un programme double.
Ben oui, parce que j'ai eu le bonheur de lire deux histoires, deux romans, qui se passent à la même époque. c'est-à-dire le début du 20e siècle, en Europe surtout, mais on voyage beaucoup dans ces deux romans. Et puis j'ai vu une petite similarité, puis je me suis dit, bah, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups.
Alors je vous écoute. Bon. Nous sommes tout ouïes.
Alors voici. Le premier roman, c'est « Passe les heures ». C'est un auteur états-unien qui s'appelle Go, Justin Gakuto. Et Monsieur Go est né à Los Angeles d'une mère états-unienne et d'un père japonais, d'où son nom. Alors, ce premier roman est traduit de l'anglais, il faut le préciser. Alors, en quatrième de couverture, on nous le présente comme un roman événement, tout à la fois enquête familiale, roman d'amour, récit initiatique et odyssée historique.
Oh, on aime ça.
Ah, j'ai adoré. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, un petit résumé, faut dire qu'au début, on se trouve en présence d'un étudiant de San Francisco qui s'appelle Tristan Campbell, qui reçoit un coup de téléphone d'une firme d'avocats de Londres, l'instruisant, et là je cite, qu'il pourrait être l'héritier de l'immense fortune d'Ashley Walsingham, disparu en tentant de conquérir l'Everest, ce n'avait pas été fait encore, en 1924. Tristan entame alors une course contre la montre, car il n'a que quelques semaines pour prouver qu'il est bien le descendant de l'alpiniste et aussi de l'amour de sa vie à l'alpiniste Imogen.
Ah oui!
Avant que la succession ne revienne à l'État.
Mais oui.
Alors, il y a déjà un petit suspense. Là.
Okay.
Ça ne sera pas simple. Alors, à partir de là, on atterrit à Londres. Et l'histoire se tresse avec, d'une part, la vie bourgeoise européenne au moment de la Grande Guerre de 14-18.
OK.
Et, d'autre part, avec les péripéties d'un Tristan actuel en quête de sa fameuse preuve d'héritier légitime. Alors, sur une première piste, parce qu'il y a deux pistes, en gros, les amours tumultueux d'Ashley le millionnaire, un passionné quelque peu engoncé dans ses principes. On est au début du 20e siècle, en haute société, n'est-ce pas? Avec Imogen, la féministe avant son temps, elle est épris d'émancipation. Et les filles d'un ambassadeur suédois à Londres. Alors, on est dans la haute.
Oui, c'est ça. Belle situation.
Oui.
Prout, ma chère, comme on dit.
Voilà. Oui, et il y en a. Il y en a. On rencontre même l'empereur.
Ah,
l'empereur
oui?
d'Autriche.
OK.
Alors, les drames personnels que la Grande Guerre cause, on assiste à ça. L'horreur de la vie dans les tranchées.
Ah oui.
En détail, c'est assez cru. La vie recluse de deux sœurs en Suède rurale pour cause de tabou, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi au début du 20e siècle, et peut-être même encore de nos jours, hein, qui sait. Et puis ensuite, une expédition sur le mont Everest, mais dans le menu détail. Ça, c'est très intéressant aussi.
Oui, c'est sûr.
Et sur la seconde piste, eh bien là, il y a les multiples déplacements de Tristan, qui fait son enquête, évidemment. On va en Angleterre, en Suède, en France, même en Islande. Et ses propres sentiments aussi en rapport avec les situations et les personnes qu'il rencontre sur son chemin. Et enfin, son attitude dubitative, voire insolite, je dirais, devant un éventuel héritage, mais alors colossal.
Ah oui?
Oui.
Et on ne dira évidemment pas s'ils veulent l'avoir ou pas,
ah,
c'est pas drôle.
Ça, il faut lire le livre. J'ai beaucoup aimé la narration dans ce livre-là.
Ah oui, hein?
Oui, le fait de pouvoir laisser mon imaginaire voguer d'un chapitre à l'autre.
Oui.
Et comme je vous ai dit, il y a deux pistes. Et l'auteur me rend curieux de connaître les détails de la vie quotidienne au début du 20e siècle en Europe. La vie en ville, à la campagne, le pouvoir, la guerre, les tabous, les mœurs, les coutumes, enfin, tout ce qui touche à la vie. Et en terminant, je dirais qu'au travers des personnages et des événements, ce sont deux préoccupations éternellement humaines qui se manifestent dans ce livre, je trouve.
Okay.
La première, c'est désirer ce qu'on ne peut avoir et ne pas désirer ce que l'on a. Et la deuxième, c'est la réplique du renard au Petit Prince dans Saint-Exupéry. On est responsable de ce qu'on apprivoise.
Ah, oui.
Alors, je laisse les lecteurs, lectrices...
D'accord.
Découvrir comment s'appliquent ces deux principes.
Dans ce livre-là,
et
pardon, Rénal, que je voudrais juste rappeler
bien
le
sûr.
Titre, c'est « Passe les heures » de Justin Gakuto Go. Mais regardez, souvenez-vous de Go, G-O, et puis vous, avec cette information-là, vous allez le trouver facilement. Mais vous n'êtes pas venu avec un seul livre, vous en avez un autre.
Non, j'en ai un autre, en effet. Et celui-ci s'appelle « Les ingénieurs du bout du monde » de Yann Guillou.
OK.
On dit sur la quatrième de couverture que Yann Guillou est d'origine française par son père breton, en plus d'être l'un des plus célèbres écrivains et journalistes suédois.
Guillou, oui. C'est vrai que ça sonne très breton, cette affaire-là. Oui, non, mais c'est vrai. Hein?
C'est vrai, ouais, hein, ouais, moi, ouais. Je connais pas les patronymes. Et qu'une vingtaine de ses œuvres ont été adaptées au cinéma et à la télévision, et j'y reviendrai là-dessus.
C'est
d'accord. En partie beaucoup ce que j'ai aimé. Alors, on fait un petit résumé. Ici, l'action est d'abord campée en Europe, comme tout à l'heure, en Europe du Nord, au tout début du 20e siècle, et l'auteur nous met en présence de trois jeunes frères norvégiens, orphelins de père, et qui possèdent tous trois des habiletés artisanales hors du commun, vraiment. Ils sont forcés de quitter leur petite île et d'habiter Bergen,
en Norvège.
Grâce à un mécène perspicace et à leur talent, ils sont envoyés à l'université de Dresde en Allemagne, d'où ils sortent jeunes adultes et diplômés en génie civil. Par contre, il ne leur reste plus alors qu'à honorer leur pacte de mécénat, c'est-à-dire de construire une ligne de chemin de fer sur un haut plateau, chez eux en Norvège, de Bergen à Christiana. Christiana, c'est l'ancien nom de Oslo.
Ah, OK.
Voilà. À la suite de quoi, chacun sera libre d'exercer sa profession comme bon lui semble. Seulement, au moment de se rendre sur le haut plateau de Hardangervidda pour le début des travaux ferroviaires, deux des frères disparaissent chacun de son côté.
OK.
Oscar et Sverre laissent chacun une note à leur frère Lauritz, justifiant leur geste. Et devant la défilade de ses frères, Lauritz décide alors d'honorer seul la promesse des trois, c'est-à-dire leur dette d'études envers leur mécène et du coup envers leur patrie aussi. Parce qu'il y a toute cette idée-là de l'honneur et c'est fort au début du siècle. On finit par apprendre qu'Oscar se trouve en Afrique et à Sverre, on répète en catimini du bout des lèvres qu'il serait à Londres. Alors, on suit ces deux histoires, un en Afrique, l'autre en Europe, histoire d'amour, les mœurs, un peu très semblables à l'autre, à la même époque.
Okay.
Alors, c'est ce qui fait l'intérêt de ce livre-là.
Oui,
oui. Alors, moi, mes petites observations, je vous ai précisé qu'une vingtaine d'œuvres de M. Guillou avaient été adaptées au cinéma. C'est ce que j'ai aimé particulièrement. C'est les détails. On peut constater comment on s'imaginait alors que les progrès techniques et scientifiques seraient une panacée pour toute l'humanité. Le transport, les télécommunications, les gratte-ciels, les ordinateurs, les rapports entre les peuples, même l'exploration de l'espace. On pensait que ça allait être un miracle.
Un miracle.
Alors, on a vu que c'est pas le cas. Mais en terminant, j'ai une petite réserve. Curieusement, sur plus de 600 pages, seulement quelques lignes sont consacrées à l'infamie du troisième frère, Sverre, coupable d'un crime aux yeux des hommes et de Dieu.
Et vous nous en direz pas plus, évidemment, tel que je vous vois venir.
Non, je voulais terminer là-dessus. Mais c'est quand même curieux, ce choix de l'auteur d'ignorer, parce que ce personnage fait partie d'un triumvirat qui nous a été présenté au début.
Ah, puis finalement, il est un petit peu délaissé.
Et il n'est pas juste un petit peu délaissé, il est carrément ignoré.
Ah!
On nous donne deux, trois petites choses.
Ça veut dire qu'il y aura une suite?
Je sais pas.
Ah!
Pour un personnage seulement?
Je sais pas. Oh, ben non.
Enfin, je crée le mystère.
D'accord.
Vous verrez en lisant le livre. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ces deux livres-là et je vous souhaite la même chose.
Alors, le siècle, parce que c'est dans le... Ben, voyez-vous, c'est le tome 1. Hein? C'est le siècle des grandes aventures, tome 1.
Oui, mais des grandes aventures, est-ce que ce sera la suite de cette histoire-ci?
Ah, je sais pas.
Ou est-ce que ce sera une autre grande aventure du début du 20e siècle? C'est ce que j'ai pas su trouver.
Bon, ben écoutez, Les ingénieurs du bout du monde, de Jean Guillou, G-U-I-L-L-O-U, et je remercie infiniment Reynald Robichaud d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour nous présenter ces deux livres.
Ça me fait grand plaisir. Bonne lecture.
À bientôt. Petite musique rétro pour la bande-annonce. Ce ne sera pas pour la semaine prochaine, toutefois, parce que la semaine prochaine et la semaine d'après, pendant les fêtes, vous aurez droit à des reprises des meilleures émissions des livres plein les oreilles. Parmi elles, la reprise de l'émission avec Dany Laferrière, entre autres, avec Edith Butler aussi, qui avait été formidable, et Lise Aubut. Alors, vous pourrez réentendre tout ça, je l'espère, avec grand plaisir. Par contre, la première émission du mois de janvier 2016, je vais recevoir Monique Proulx pour le livre « Ce qu'il reste de moi ». Ce qu'on nous dit ici en quatrième de couverture, compte en commun, L'acide, l'acide, on l'écrit L apostrophe H-A-S-S-I-D, c'est donc un personnage de la rue du Rocher qui se presse vers la synagogue, où est l'artiste qui donne une performance dans son atelier du quartier des spectacles, et la foule au Centre Bell, galvanisée par un but des Canadiens. Qu'est-ce qui relie tous ces gens-là? Montréal. Voilà, ils ont la ferveur, l'appel au dépassement, la quête de transcendance enfouie dans le sol montréalais. Selon Monique Proulx, un gisement mystique se cache sous les pieds des Montréalais, les contaminant et les embrasant. Et c'est là leur plus grande richesse, bien davantage que le gaz de schiste. 20 ans après son recueil de nouvelles, Les Aurores Montréal, Monique Proulx donne ici le grand roman de la métropole. Elle remonte aux origines même de la ville, elle décrit le rêve insensé qui lui a donné naissance. Et puis elle montre comment la vision incroyablement audacieuse des fondateurs perdure dans le concentré d'humanité que Montréal est devenu aujourd'hui. Alors il y a une fascinante galerie de personnages qui rassemble également des pionniers, des évêques, des commerçants, des artistes, des gens venus de tous les horizons. Et la romancière, Madame Proulx, je vous le rappelle, Monique Proulx, fait résonner cette espèce de cacophonie de la grande ville sous laquelle bat encore le cœur brûlant de Jeanne Mance. C'est un roman qui propose une étonnante réflexion sur les liens qui nous unissent aux origines. Il est surtout l'illustration éblouissante du talent d'une grande conteuse au sommet de son art. J'ai un petit extrait à vous proposer.
Là où elle va, il n'y a que forêt à perte de vue. Amalgame vertigineux de jungle et de grand froid, où, dit-on, vivent des hommes aussi sauvages que les bêtes. Et pourtant, elle vibre d'excitation en regardant son pays disparaître. Aucun destin ne lui paraît plus extraordinaire que le sien, livré à l'informe de l'inconnu. Elle s'en vient apporter l'éternité à des êtres qui ne la connaissent pas.
Voilà, donc pour ce qu'il reste de moi de Monique Proulx, qui sera mon invitée le 6 janvier 2016 à l'émission. Également, à la même émission, je vais recevoir un formidable lecteur aussi de chez Vues et Voix. C'est Jacques Tremblay qui a lu pour vous « Terminus radieux » d'Antoine Volodine. Nous sommes dans des steppes infinies, une taïga sombre, immense. La scène se passe d'abord après l'irradiation complète de la Sibérie et l'écroulement de la deuxième Union soviétique, et puis des siècles plus tard. La région est dévastée par des accidents nucléaires, elle est à jamais inhabitable, elle est entourée de paysages grandioses et au cœur de ces paysages grandioses, on retrouve des soldats fantômes, des espèces de morts vivants, d'inquiétantes princesses qui s'obstinent à poursuivre le rêve soviétique. Désormais, le centre du monde a un nom, c'est Terminus radieux. Un kolkhoz dont la pile atomique s'est enfoncée sous terre. Voilà pour la prémisse de ce livre Terminus radieux, qui n'est pas très radieux d'ailleurs, d'Antoine Volodine, dont un journaliste de Libération a déclaré le 8 septembre 2014 « Terminus radieux est une odyssée de l'errance, un roman du désastre que seul l'humour volodinien tempère, alliant le rire tibétain devant la vanité des choses à cette dérision propre au pays de l'Est ». Qui s'est poussé au paroxysme, l'idiotie de tous les mots d'ordre. On en a un petit extrait aussi. Jacques Tremblay lisant « Terminus radieux » d'Antoine Volodine.
Le vent de nouveau s'approcha des herbes et il les caressa avec une puissance nonchalante. Il les courba harmonieusement et il se coucha sur elles en ronflant. Puis il les parcourut plusieurs fois. Et quand il en eut terminé avec elles, leurs odeurs se ravivèrent, d'armoises savoureuses, d'armoises blanches, d'absinthe. Le ciel était couvert d'une mince laque de nuages. Juste derrière, le soleil invisible brillait. On ne pouvait lever les yeux sans être ébloui. Au pied de Kronauer, la mourante gémit. « Ellie !» soupira-t-elle. Sa bouche s'entr'ouvrit comme si elle allait parler, mais elle ne dit rien. « T'inquiète pas, Vassia, » murmura-t-il. Elle s'appelait Vassilissa Marachvili. Elle avait 30 ans.
quelle lecture, hein. Jacques Tremblay aussi. Vous savez, on était chanceux aujourd'hui parce que je pense qu'on avait deux parmi les vraiment les meilleurs lecteurs de Vues et Voix. Ce n'est pas peu dire. Alors Jacques, qui est un habitué de l'émission et qui sera là le 6 janvier prochain pour nous présenter ce Terminus radieux d'Antoine Volodine. Cher Gérard, je trouve que cette musique vous va si bien.
Je vais vous dire, avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, je trouve que je prends mon trou avec ma synthèse vocale. C'est pas pareil.
C'est pas
Mais c'est si beau, la belle voix. C'est si beau, les contes aussi. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai 77 ans, ma chère Atlantique, que je suis revenu en enfance, mais je commence à aimer ça, encore plus.
Ah! Et vous venez donc nous présenter des contes, et notamment des contes de Noël.
Les auditeurs qui vont recevoir des petits-enfants pourraient peut-être mettre un CD et puis faire jouer un conte. C'est
ben
ça,
oui.
Merveilleux.
Mais
merveilleux,
oui.
Merveilleux, merveilleux. Bon, disons qu'on va y aller rapidement parce qu'on n'a pas grand temps. À l'Inca, on a mes contes de Perrault. Les contes de Perrault, c'est bien connu.
Oui.
Et je pense qu'on peut les avoir facilement. L'auteur qui a écrit une dizaine de contes. Et parmi les plus populaires. Ça fonctionne très bien. On a le noyau d'abricot et autres contes, à l'Inca toujours, de Jean Giono.
Oui,
Jean Giono,
oui.
C'est quand même un écrivain merveilleux.
Ah, c'est pas n'importe qui. Non, non.
Non, mais il a écrit tellement de belles choses.
Oui.
Il fait des beaux contes. Après ça, il y a Contes et Nouvelles, toujours au SQLA, de Guy de Maupassant.
Mm-hmm.
Guy de Maupassant, ça peut pas être... Et ça vient de Société Radio-Canada. C'est de Mademoiselle Perle, et le papa de Simon.
Oui.
Et le
testament. Oui.
C'est ça. Et ça, c'est été diffusé en 96 à Radio-Canada, et c'est très bon.
Ah oui, c'était effectivement dans le cadre de l'émission Nuit Blanche, hein?
Exactement.
D'accord.
AVH, on retrouve on retrouve Grimm.
Ah oh ben.
Oui, Grimm, c'est ses frères Grimm sont tellement
incontournables.
Tellement impliqués en littérature, des érudits, des gens qui ont écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont ramassé des contes. Vous savez, c'est des contes allemands, mais
ouais.
Des contes pour les enfants, qu'ils soient allemands, russes, québécois ou norvégiens, il n'y a pas de différence.
Ben surtout s'ils sont bien traduits, quoi, c'est ça aussi.
Oui, exactement.
Hein? Voilà.
Il y a au SQLA, le chant de Noël, une histoire de fantôme avec Charles Dickens, qui peut aussi être très intéressant.
Mm-hmm.
Mais je recommande à nos gens, tout simplement, d'aller sur le SQLA et d'indiquer dans l'outil de recherche « Contes de Noël ».
OK,
ça.
D'accord.
Même pas obligé de mettre d'accent, là. « Contes de Noël ». Et on va trouver deux livres. Contes de Noël 1 et Contes de Noël 2.
Ah,
et ça,
OK.
Et ça, vous allez voir, c'est une dizaine de contes dans chacun des livres, mais ça vient de tout le monde. Ça vient de Daunet, ça vient de Jules Verne, ça vient d'Anatole France, ça vient de Charles Dickens, ça vient de d'Anderson.
D'accord.
Ça vient même de Sherlock Holmes.
De quoi, de
Conan Doyle, oui.
OK.
C'est tout sur Noël. C'est le sapin, le forgeron, des belles histoires de Noël. Ça se raconte très, très bien. Ça s'écoute merveilleusement bien.
Alors, c'est quelque chose en ce 16 décembre qu'il va falloir aller chercher, effectivement. Là,
oui, c'est le temps.
C'est le temps. Hein?
Parce que Noël va arriver dans moins de 10 jours. On sera passé après.
Ben oui.
C'est fini.
Mais oui, ça va vite. Hein. Et dites-moi, et vous, en principe, vous avez toujours un petit favori. Est-ce que vous avez votre
choix? Non, je n'ai pas. C'est mon favori, c'est les deux contes de Noël.
Ah, d'accord.
Oui. Parce que je trouve que c'est varié. Je les ai réécoutés. Et c'est tellement varié que c'est intéressant parce que c'est pas le même auteur. Là, c'est
oui, non, c'est ça, exactement.
Et c'est court, et puis c'est bien lu, c'est très, très bien lu.
Bon, et puis, donc, il faut rappeler aux gens simplement d'aller sur le site du SQLA et taper dans le moteur de recherche Conte de Noël.
Conte Noël, c'est tout. On va voir Conte 1 puis Conte 2. On va chercher ça. Et... Et on s'installe et on les écoute.
D'accord. Dites-moi, Gérard, quand on va se retrouver en 2016, il me semble que vous allez faire beaucoup dans la religion. Est-ce que je me trompe?
Je vais y aller. Je vais aller en religion parce que c'est la période des fêtes. Non.
Mais
j'ai pensé à faire quelque chose d'intéressant du côté de la religion.
Il y a
des thématiques fort intéressantes qui s'en viennent pour 2016, pour nos auditeurs.
D'accord.
Et là, la religion, c'est aujourd'hui... Tu sais, quand j'étais jeune, quand on parlait de religion, on parlait des catholiques, des protestants.
Oui.
Moi, je restais à Verdun, puis je changeais de bord de rue, parce qu'il y avait une église protestante d'un côté de rue, il ne fallait pas rentrer là.
Ah oui,
là.
Hein?
Ben non, on n'avait pas le droit de rentrer là. On était pris, parce que l'autre bord, ceux qui ont connu Verdun un peu, les auditeurs qui nous écoutent, qui ont 75 ans et plus, ils se rappellent que c'est à Rue Gordon. Il y avait, juste pas loin de Céréal, il y avait le Chinois qui repassait les chemises. Et là, encore là, c'était dangereux. Quand on avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, on avait peur des Chinois. C'est formidable.
Bon, cher Gérard, alors c'est donc maintenant en 2016 que nous allons nous retrouver.
Oui, j'embrasse tout votre monde. Je leur souhaite des joyeuses fêtes.
Oui.
Qui en profitent, parce que c'est bien important. C'est l'amitié, c'est l'amour. Et surtout, c'est un temps de réflexion puis de retrouvailles.
Oui, Gérard, à vous aussi de joyeuses fêtes. Je vous embrasse et je vous aime fort.
Portez-vous bien, merci bien.
Au revoir.
Bye-bye.
Alors, quelques titres en rafale. D'abord, Une vie après l'autre. Ça, c'est encore un livre qui est sur ma table de chevet, qui fait partie de la liste que je n'ai pas encore ouverte et j'ai assez hâte. Je vais vous dire pourquoi. 11 février 1910, Ursula Todd naît et elle meurt aussitôt. 11 février 1910, Ursula Todd naît et meurt. Quelques minutes plus tard, le cordon ombilical enroulé autour du cou. 11 février 1910, Ursula Todd naît, le cordon ombilical menace de l'étouffer, mais cette fois, le médecin est là pour le couper. Et Ursula survit. Faut suivre, hein. Ursula naîtra et mourra de nombreuses fois encore. À 5 ans, noyée. À 12 ans, dans un accident domestique. Ou encore à 20 ans, dans un café de Munich, juste après avoir tiré sur Adolf Hitler et changé ainsi peut-être la face du monde. Vous parlez d'un livre fou ? Eh bien alors en voici un, Une vie après l'autre, de Kate Atkinson, A-T-K-I-N-S-O-N, Une vie après l'autre. Le ruban d'Ito Ogawa, O-G-A-W-A. Le ruban, c'est d'abord un nom propre. Ruban, c'est celui d'un tout petit oiseau jaune, plus précisément, c'est une perruche calopsite. Très magique est venu au monde dans le chignon de la vieille Sumire et qui apporte un moment de joie et d'apaisement à tous ceux qu'elle croise. C'est une enfant rêveuse ou alors une femme malheureuse, une jeune paumée, une vieille artiste malade. Voilà, le ruban va lui faire du bien. Le ruban, c'est ensuite un drôle de livre japonais qui est plein de délicatesse et de fantaisie, mi-roman, mi-recueil de nouvelles et poétique, pardon, tout du long. J'avoue que je n'ai pas au départ tout compris, nous dit un lecteur, par rapport à toutes ces histoires, aux liens entre elles. Il cherchait à y retrouver des personnages qui parfois disparaissaient, un petit peu comme le personnage dans votre livre, Reynald, et qui refusait de laisser à Ruban ce rôle de seul lien entre les intrigues, les gens, les lieux, les époques. Mais même si on ne comprend pas tout, c'est un livre à lire à tout prix, ne serait-ce que par la beauté et la grâce du texte que cet autre lecteur voit comme un long haïku de presque 300 pages, un peu à la manière d'Aki Shimazaki, le ruban d'Ito Ogawa. Un autre livre de nouvelles, c'est un membre permanent de la famille de Russell Banks, un mari humilié qui rôde dans la maison de son ex-femme, un serveur déprimé qui invente à une inconnue une vie qui n'est pas la sienne pour la sauver d'un hypothétique désespoir, des hommes et des femmes qui, pour transcender leur existence ordinaire, montent ou affabulent à l'envi sous le soleil de Miami ou sous des cieux plus sombres. Dans ces 12 nouvelles d'une extraordinaire intensité, nous dit-on, et peuplées de personnages cheminant sur le fil du rasoir, Russell Banks convoquant les angoisses et les tensions où s'abîment les fragiles relations que l'être humain tente. Vous aimez les nouvelles ? C'est le temps d'aller chercher ça, un membre permanent de la famille de Russell Banks. Mémoire au pluriel de Beate Klarsfeld et Serge Klarsfeld, et je dis bien Klarsfeld, K-L-A-R-S-F-E-L-D. Leur couple est une légende, leur biographie c'est une épopée. Pourtant, rien ne prédestinait cette fille d'un soldat de la Wehrmacht et ce fils d'un juif roumain mort à Auschwitz à devenir le couple mythique de chasseurs de nazis que l'on connaît. Alors leur histoire commence par un coup de foudre sur un quai du métro parisien entre une jeune fille au père allemande et un étudiant de Sciences Po. Et puis très vite, avec le soutien de Serge, Beate livre en Allemagne un combat acharné pour empêcher d'anciens nazis d'accéder à des postes à haute responsabilité. Sa méthode, c'est le coup d'éclat permanent. Je ne vous en dis pas plus, c'est un livre absolument extraordinaire qui vous amène à la fois beaucoup de surprises, beaucoup de suspense, mais aussi beaucoup d'histoires. Alors ne manquez pas ça, Mémoire au pluriel de Beate et Serge Klarsfeld. Et puis pour finir, La chaise rouge devant le fleuve, Apprivoiser sa souffrance, Apprendre à danser avec la vie. C'est un livre qui fait du bien, écrit par des gens qui sont très actifs dans le monde des affaires. Et puis, à un moment donné, ils ont l'envie de raconter la détresse d'un père qui n'arrive plus à aider son fils. Ils ont eu envie de raconter la souffrance. Ils ont eu envie de raconter, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à cette souffrance-là ? Y a-t-il moyen de se sauver de la souffrance et surtout de se guérir de la souffrance ? Donc, ne manquez pas ça non plus. La chaise rouge devant le fleuve, Apprivoiser sa souffrance. Voilà, il ne me reste plus que quelques secondes pour vous dire au revoir, pour remercier Jean-Sébastien Laliberté, Reynald Robichaud, Gérald Cousineau, Gérard Saint-Denis et Karl Marchand. Bonne semaine à tout le monde et bonne lecture. Salut, au mois de janvier.